Oui, table ovale sans ellipse, table ovale sans ellipse animée par Claude Devezin. CFM, une fois par mois à Villefranche-de-Rouergue, invite les représentants locaux des partis politiques nationaux. Et ce soir, ça ressemble un petit peu à une séance de nuit à l'Assemblée nationale, encore que c'est une proportion bien meilleure que celle des séances de nuit de l'Assemblée nationale, puisque nous accueillons Angelo Andreotti pour le Parti communiste et Lionel Lacroix pour le Parti socialiste. Alors, on vous a habitué à quelque chose d'un peu plus rempli, mais c'est déjà beaucoup. Et nos sujets de ce soir, enfin notre premier sujet, c'était on saccage, on occupe, on séquestre, mais que fait la police ? Alors effectivement, que fait la police ? Déjà sur les ce qui a donné lieu à de grosses déprédations. On pense à Strasbourg, on pense à une sous-préfecture, et on a l'impression qu'elle agit tardivement. Il s'agit de dysfonctionnements, selon vous, il s'agit de dysfonctionnements locaux, de nécessités techniques, de consignes politiques et dans quel but? Pourquoi les choses, laisse-t-on, semble-t-il, aller les choses aussi loin?
Ce qui est sûr, c'est que le mouvement social s'amplifie et aujourd'hui, il est en train de se radicaliser sur le terrain. Après, les enquêtes policières, bien sûr, elles sont en cours. La difficulté aussi, peut-être pour les forces de police, c'est de déterminer dans quel ou quel cas qui est responsable et qui on doit poursuivre. Moi, je tiens au nom du Parti socialiste, bien sûr, à condamner toute violence, alors qu'elle soit à l'encontre des personnes ou à l'encontre des biens. Sauf que on ne peut pas justifier ces violences, bien sûr. Donc il faudra que les responsabilités soient trouvées et que quand il y a débordement et qu'on porte atteinte à des personnes ou à des biens, que les coupables soient sanctionnés. Donc après, au niveau des forces de police, je ne sais pas s'il y a des consignes du ministère de l'Intérieur pour réduire les effectifs. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on le voit sur le terrain, je l'ai dit, il y a une radicalisation du mouvement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les mouvements classiques, les grèves, les manifestations, pour certains, ça n'est plus efficace. Parce que quand il y a 3 millions de Français dans la rue et que personne ne réagit, qu'aucun politique ne réagit, des hommes et des femmes qui aujourd'hui perdent leur emploi, qui voient que des patrons partent avec des golden parachutes, des parachutes dorés de sommes qui sont hallucinantes, et bien ces pères et ces mères de famille là, ils sont quelquefois à bout et ils en viennent à des solutions extrêmes. Donc malheureusement, on le voit, c'est en train de s'amplifier, le mouvement devient de plus en plus dur. Peut-être les forces de police ont peur d'aller sur le terrain parce qu'elles ont peur que tout ça s'amplifie et qu'on arrive à une situation beaucoup plus difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une urgence et que c'est de la responsabilité des politiques, de la responsabilité de ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement d'assurer la sécurité dans notre pays et d'essayer de non pas de justifier les violences, déjà de les réprimer, mais de deux, d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on en vient à des situations où des gens séquestrent leur patron ou dégradent des sous-préfectures tous les jours de plus en plus. L'urgence, elle est entre les mains des politiques qui doivent rapidement trouver une solution.
Monsieur Andreotti.
Je comprends bien que la question puisse inquiéter les citoyens, surtout ceux qui ont une culture de relations sociales, laquelle correspond à une vie politique qui passe par le débat, la confrontation pacifique, l'échange de points de vue, l'analyse de propositions de loi, et qui se déterminent et qui doivent ne pas comprendre effectivement que les forces de police soient conduites dans des situations pareilles. Et j'imagine, et ce sont aussi des travailleurs du service public, et j'imagine pour beaucoup d'entre eux qu'il doit être bien délicat de faire respecter l'ordre, de se trouver dans des situations tendues, conflictuelles, où certains, exacerbés par leur situation, car quand il s'agira d'entrer un peu dans le concret, je vois Continental un salarié s'exclame « des carreaux cassés, c'est quoi à côté de 1100 vies brisées ?» lorsqu'il n'y a pas de réponse, lorsqu'ils se sentent bafoués, humiliés, lorsque le système les écrase, lorsque ces multinationales, notamment, on ne maîtrise plus notre économie, donc... c'est la bouteille à l'encre, hein. Les décisions se prennent hors d'eux, hors des conseils d'établissement d'ailleurs ou d'entreprise. Et lorsqu'ils s'exclament ainsi, c'est parce qu'effectivement ils sont mis en cause. Il y a des gestes incontrôlés, mais il faut quand même relativiser. Mais je comprends que le problème soit posé. Que fait la police ce qu'elle peut, je suppose, et en fonction des ordres qui lui sont donnés. Et je crois que nous sommes dans une vraie crise qui se durcit et que ce que l'on voit, je crois que les salariés sont poussés à bout, ne voient plus aboutir les démarches habituelles de négociation avec les syndicats, les démarches traditionnelles de la démocratie, ne les voient plus aboutir. Comme on le disait, nous ne maîtrisons plus nos choix économiques, nous ne maîtrisons plus grand-chose finalement politiquement. Et je crois que la situation échappe. Même aux leaders syndicaux, dans les cas extrêmes que nous évoquons. Hein.
Alors, voilà. Bien sûr, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, ils ont saisi la balle au bord de l'explication, non pas de l'action de la police,
oui,
mais
je suis pas allé dans le détail,
des nécessités des moments. Et alors, notre séance de nuit se transforme de plus en plus en séance diurne, puisque Serge Roch, pour l'UMP, nous a rejoint. Et donc, la question que je posais, c'est est-ce que ce sont des raisons techniques, des raisons politiques, qui laissent aller les choses au point où parfois elles sont allées. Bon, on peut penser aux séquestrations de patrons, mais enfin, on a eu à Strasbourg un quartier littéralement ravagé avec des dommages matériels considérables. Les forces de l'ordre sont intervenues très tard. Alors, est-ce que c'est parce que ça dysfonctionne ou parce que c'est compliqué techniquement?
Je crois qu'il y a deux choses dans ce que vous évoquez. Les manifestations à Strasbourg au moment du sommet de l'OTAN, c'était, disons, des manifestations plus politiques. Et un certain nombre de manifestants appartenant quand même à des franges extrêmes ont désiré montrer leur opposition formelle à l'OTAN et tous ces sommets mondiaux s'accompagnent aussi de démonstrations de ce type d'individus qui sont là pour déstabiliser ou qui tentent de déstabiliser la société et les pouvoirs en place. C'est très politique. Et puis, il y a ce qui s'est passé dans les entreprises. Et là, c'est autre chose. C'est en partie politique, certainement, mais c'est surtout la réaction de salariés qui sont dans des situations de désespoir. Et on peut bien comprendre que lorsque vous perdez votre emploi dans une entreprise où vous avez travaillé depuis de nombreuses années, quand tout s'écroule tout un coup et de façon massive, parce qu'il y a quand même sur un plan économique des dégâts très importants. Et il y a donc là des réactions de désespoir qui sont répréhensibles, puisqu'on est dans un état de droit et on ne peut pas tolérer cela dans l'intérêt même des travailleurs. Parce que si la France devait devenir un pays de non-droit, ça serait au détriment des salariés eux-mêmes. Et après, il serait difficile de demander à des entreprises de s'installer dans notre pays si les chefs d'entreprise sont menacés de séquestration ou de force brutale. Et d'ailleurs, je remarque quand même que le droit se fait... parfois aussi, et heureusement, et c'est normal, au bénéfice des salariés, puisque dernièrement, un tribunal vient de donner raison aux salariés et que le chef d'entreprise est obligé de remettre sur le tapis la négociation salariale. Donc, le droit, dans un pays comme le nôtre, il se fait au bénéfice de tout le monde et les salariés, y compris au bénéfice des salariés. Donc, personne n'a intérêt à ce que ce type de dérive, même si elles peuvent être compréhensible, même s'il y a des circonstances atténuantes du fait de la dureté de certaines situations, ce type de réaction ne doit pas être toléré parce que, in fine, ça se fera au détriment même des salariés.
Alors, on ne saura pas vraiment si la met au fond. C'est une partie seulement du sujet, l'intervention ou non de la police. Mais l'autre question que ça pose, vos réactions aux uns et aux autres, Monsieur Roch a bien introduit finalement cette question. Heureusement qu'il y a la loi, elle protège notamment les plus faibles. Mais j'allais dire, est-ce qu'elle est adéquate la loi? Parce que de deux choses l'une, ou les salariés demandent beaucoup plus que la loi. Et pourquoi diable ? Où la loi ne prévoit vraiment quasiment rien, et c'est un peu curieux et ennuyeux. Alors est-ce que ce sont des choses nouvelles auxquelles on est confronté et la loi ne prévoyait pas, ou est-ce que les salariés, devant une catastrophe assez radicale, parce que quand ce sont des centaines d'emplois sur une région, évidemment, ils peuvent imaginer qu'ils auront quelques difficultés à se recaser, est-ce que la loi suffit ou pas, monsieur Lacroix?
Je ne sais pas si c'est une réponse, une question de loi ou pas. Ce qui est sûr, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, les salariés qui perdent leur emploi, c'est une situation nouvelle. Donc, bien sûr qu'il y a des textes aujourd'hui qui existent en matière du droit de travail. Sauf que, je l'ai dit, le père ou la mère de famille qui se retrouve à ne plus avoir de travail, avoir des traites sur la maison, avec la crise qu'on connaît aujourd'hui actuelle et le manque de pouvoir d'achat, certains se sentent un peu la corde au cou et donc ils en arrivent à des solutions extrêmes. Donc c'est pas une histoire de légalité, c'est une histoire politique. C'est qu'aujourd'hui ces salariés, ces travailleurs, ils posent des questions aux responsables politiques. Ils ont l'impression de ne pas avoir de réponse. Donc il y a ceux, bien sûr, et les syndicalistes qui essaient par le mouvement social, parce que c'est bien là que comme ça qu'on fonctionnait jusqu'à maintenant, d'essayer de trouver une solution. Angelo Andreotti l'a dit un peu tout à l'heure, c'est une crise démocratique à laquelle on assiste. Certains travailleurs ont l'impression que les systèmes démocratiques qui font notre société ne permettent pas d'arriver à avoir un minimum. Et bien sûr que, je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit que certains ont des millions d'euros de bonus, de paquets fiscaux, on va pas y revenir, mais, et que face à, en face eux.
Non, mais on peut y revenir parce que, si j'ai bien compris, l'essentiel de ce qui est souhaité négocier, ce sont des indemnités de licenciement. Alors ma question au fond, c'est, mais la loi, elle prévoit pas d'indemnités de licenciement?
Je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est plus que des indemnités de licenciement au cas par cas. Bien sûr que ça existe et que ça fait partie de la négociation salariale. Sauf que ça, j'ai commencé à le dire, c'est un sentiment d'injustice qui fait que on peut négocier 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là. Sauf que il y a beaucoup de plus en plus de Français qui ont l'impression d'être dans une injustice. Donc ils essaient bien sûr de négocier pour eux, mais c'est même plus que là. C'est au-delà du
Cher Roti.
Non, je voulais simplement passer par des exemples que je lis dans l'Humanité pour comprendre cette question de la loi. En tout cas, la loi doit évoluer, c'est certain. Nous avons fait des propositions, le groupe communiste, qui consiste à interdire les licenciements dans des groupes qui font des bénéfices, et en particulier cette proposition de loi que personne n'a entendu rapporter dans les grands médias, mais qui est d'une urgence extrême. Je détaille pas là-dessus. Je voudrais rappeler quand même les sommes fabuleuses qui sont versées aux entreprises depuis plusieurs mois. Et donc, ça exacerbe encore plus la crise, comme elle est perçue par les gens. Alors, je vais donner un exemple, la loi.
Mais elle est bafouée. Les gens qui licencient aujourd'hui plusieurs centaines de personnes. On a en France plusieurs entreprises. Ils ont reçu combien et de qui?
Ce qui est certain, c'est que, je ne peux pas vous dire qui a reçu combien, mais les sommes versées aux entreprises...
Surtout dans la filière automobile aujourd'hui.
Là, je vois 11,4 milliards, encore, tout récemment, de remboursement anticipé d'impôts dans le plan de relance par le gouvernement. Bon. Mais là, je voulais faire remarquer que la loi n'est pas respectée par de grands groupes. Ici, je donne un exemple tout près d'ici. C'est à Villemur, Le site est celui de Molex. Molex qui, en complète infraction de la loi, installe une double production concurrente de celle de son entreprise de Villemure pour pouvoir doublonner et justifier sa fermeture. Sans en avertir ni, évidemment, les salariés, ni les élus du personnel. Et j'ai là le fac-similé que les syndicalistes ont pu avoir, qui démontre que c'est organisé, prémédité.
Quand, cette production a lieu où ?
Alors là, cette production est à Villemure, et ils en ont organisé un autre, sur un autre site, hein, parce que c'est une multinationale américaine. Hein, qui, et ils en ont organisé une autre production sur un site hollandais. Donc, alors, voilà, ce stock est en double. Ensuite, on peut justifier, évidemment, la fermeture. C'est prémédité. Et ça a été publié, c'est dans l'Humanité, du mercredi 22 avril. Voilà ce qui a fait exploser le coup de colère des salariés à Molex, parce qu'ils l'ont appris, après coup. C'est en infraction avec la loi économique, hein, et les lois actuelles, du droit actuel. Mais il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Vous avez évoqué, M. Roch, effectivement, la justice a donné raison à des salariés de Caterpillar, parce qu'il s'avérait que l'entreprise, la direction de la multinationale, n'avait pas respecté la procédure en matière d'information, et qui nécessite une consultation en cas de problème et de réorganisation.
Alors, la réalité, c'est qu'ils avaient consulté le comité d'entreprise, que le comité d'entreprise ne s'était pas réuni, et que, excipant de ça, ils entendaient considérer que la décision... Donc, le tribunal, il s'agit du juge des référés, c'est pas exactement un tribunal, et qui les a renvoyés en exigeant que le comité d'entreprise se réunisse effectivement.
Voilà, mais en fait, pour conclure, pour moi, je vois qu'il y a en effet une grave tension là aussi, des menaces, des lettres de menaces contre les salariés. Et effectivement, nous avons encore notre exemple de société, d'entreprise, où le personnel se sentait traité, j'allais dire, d'une manière particulièrement inhumaine, et ne voyait pas d'issue. Et d'ailleurs, il n'y en a pas encore. Les négociations ne sont pas relancées et n'ont pas abouti, à plus forte raison.
Oui, cette absence, enfin, cette espèce de carence de la loi ou de l'organisation de concertation, M. Roch.
Oui, je crois qu'on reproche aux entreprises tout et le contraire de tout, et au gouvernement tout et le contraire de tout. Bon, j'entends là que on accuse plus ou moins le gouvernement d'avoir trop aidé les entreprises, et dans une autre émission, on trouvait que le plan français n'était manqué de moyens par rapport à des plans étrangers. Donc on ne peut pas à la fois dire vous en faites trop et
pas
assez.
C'est pas ça que dit M. Andrews.
Oui, oui. Non, pas cette fois-ci, mais d'autres fois, on a reproché au gouvernement français de pas en faire assez. La presse de gauche l'a dit suffisamment. Et puis après, on dit non, vous en faites trop. On peut pas à la fois avoir des comportements qui sont contradictoires. La vérité, c'est que c'est une crise mondiale, très grave, que c'est la plus grave crise économique depuis 1929, qu'elle frappe tous les pays, et que les chefs d'entreprise, moi je ne veux pas les défendre et être leur avocat spécifique, mais je fais quand même remarquer que le jour où on n'aura plus de chefs d'entreprise dans un pays, on sera mal. Il faut quand même en garder un certain nombre.
On parle pas de chefs d'entreprise, là on parle de financiers,
oui,
des grands groupes.
Oui, mais enfin, il y a des chefs d'entreprise derrière. Caterpillar, c'est bien des chefs d'entreprise. Donc, si aujourd'hui ils sont amenés à licencier du personnel, c'est qu'ils ont des problèmes. Pourquoi ils licencient maintenant, et pas il y a un an, et pas il y a deux ans, et pas il y a trois ans? C'est que actuellement, ils sont affrontés à une crise qui est sans précédent, qui est gravissime, et pour un chef d'entreprise, normalement constitué, c'est toujours très difficile et douloureux pour lui de procéder à des licenciements. C'est une mesure extrême que la plupart n'adoptent que lorsqu'ils peuvent vraiment pas faire autrement, et lorsque ils sont obligés d'en arriver là, c'est souvent pour sauver le reste de leur entreprise, que si ils ne procède pas à ce type de décision dramatique et cruelle, eh bien c'est toute l'entreprise qui disparaît. Donc je crois qu'il faut pas être dans ce cas de figure trop démagogue ou trop catégorique. Les chefs d'entreprise qui sont dans ces situations vivent également des moments extrêmement difficiles. C'est pas du tout facile pour eux et c'est des solutions qu'ils aimeraient ne pas avoir à prendre. Mais dans certaines circonstances, ils peuvent pas faire autrement. Donc, moi, je crois que la seule question qui vaille, c'est que comment sortir de la crise, comment envisager un retour à meilleure fortune et auquel cas, eh bien, le type de problèmes très graves que l'on a affronté disparaîtra ou en tous les cas on reviendra à la situation antérieure.
Les uns et les autres, l'un d'entre vous, M. Roch, a été législateur. On a quand même l'impression que, alors outre le comportement des patrons, stigmatisé par vos deux autres interlocuteurs, la crise, rappelée par vous-même, mais on a quand même l'impression que nos outils contractuels, législatifs, sociaux, ne sont pas adaptés ou ne fonctionnent pas. Alors peut-être qu'ils ne sont pas adaptés parce que c'est une très grosse crise, mais est-ce que ce n'est pas le moment de...
Et ça, c'est bien possible, que, et c'est même certain, qu'il faille adapter le système législatif en fonction de la crise, en fonction de sa gravité, et que, par exemple, une loi soit votée pour demander à une entreprise qui a reçu des fonds publics et qui va délocaliser qu'elle rende ses fonds publics, ça me paraît normal. Enfin, je pense que devant la crise, il y a un certain nombre de barrières législatives à mettre en place de façon à éviter un certain nombre de comportements qui peuvent apparaître et qui sont scandaleux. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit pas tolérer. Il n'est pas tolérable que des patrons et des stock options, des retraites de chapeau, etc., après avoir coulé une entreprise ou en tous les cas avoir dirigé une entreprise qui se trouve face à des difficultés, c'est absolument anormal qu'ils prennent des fonds considérables pendant qu'ils licencient leur ouvrier. Là, il y a des mesures législatives à prendre de façon à interdire ce type de situation qui est nouvelle, en tous les cas, dont l'intensité et l'importance apparaît de façon beaucoup plus éclatante à l'occasion de cette crise. Et c'est l'occasion, très certainement, de toiletter notre système législatif et d'apporter un certain nombre de réponses pour mieux défendre l'intérêt général de l'entreprise et l'intérêt des salariés. Et encore une fois, il est intolérable que certains se remplissent les poches pendant que d'autres se retrouvent au chômage. Ça, ce n'est pas normal et ça ne doit pas être toléré.
De la même manière que je mettais en cause la loi, j'ai parlé de l'organisation sociale. Après, on va faire un tour sur cette question-là et puis on va passer à notre deuxième sujet. Mais on a vu aussi, d'une certaine manière, les syndicats être en échec. On en a vu apporter des solutions aux salariés et les salariés les rejeter. Alors, c'est bien le droit des salariés, mais en même temps, est-ce que ça n'est pas, on le sait, et est-ce qu'on peut là aussi faire quelque chose, alors là je pense pas que ce soit la loi qui soit une solution, mais faire quelque chose pour que le syndicalisme et le dialogue social soient quelque chose qui fonctionne, parce qu'on n'a pas l'impression que ça fonctionne vraiment non plus.
Ouais, tout à fait, le dialogue social aujourd'hui est de plus en plus en panne, et bien sûr il est... C'est aujourd'hui difficile pour des syndicalistes de porter les revendications des travailleurs qui souvent sont, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont pas tout à fait en adéquation. Donc il faudra, bien sûr, nous on le dit depuis longtemps au Parti Socialiste, travailler sur le taux de syndicalisation qui est très faible en France comparé à d'autres pays, notamment par rapport aux pays nordiques. Même dans la fonction publique, on a des taux de syndicalisation qui sont dans les 10% en fonction des branches. Là, c'est une moyenne. Mais on a un taux de syndicalisation qui est très faible. Et donc, on a très peu de syndicalistes qui se mettent autour de la table pour travailler sur le dialogue social. Donc il faudra travailler sur ce qui se fait peut-être dans les pays nordiques. Il faut essayer de voir comment faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de travailleurs qui s'impliquent pour défendre leurs droits, pour participer au dialogue social et permettre d'avancer, parce que c'est en se mettant autour de la table qu'on arrivera à faire quelque chose.
Oui, je voulais dire, c'est que il ne faut pas quand même tomber à bras raccourcis sur les directions syndicales. J'accuse personne de l'avoir fait, mais il y a quand même ce discours, il court un peu d'une utilité, d'une efficacité. Ils font beaucoup en ce moment pour aider ceux qui sont brimés, les salariés attaqués. Je prends ici un exemple tout près d'ici, à Figeac, une entreprise dont je vais taire le nom. Avec quand même, il y a une tentative. Il ne fait pas bon d'être syndicaliste CGT. Il ne faut pas être hypocrite, bien se le dire. Hein, dans beaucoup d'entreprises, que ce soit même publiques ou privées, hein. Je crois qu'il faut prendre la mesure et se le dire tranquillement. Et donc cet exemple à Figeac. Bon, il y a eu une plainte déposée contre un syndicaliste CGT. Accusé d'avoir proféré une menace de mort. Bon, cette plainte a été retirée après protestation. En vérité, c'était bel et bien une provocation. Bien souvent, il y a des conflits qui naissent d'une provocation entre personnes dans une entreprise qui connaît une situation de tension. Il y a des cas individuels, mais alors il y a aussi des cas plus généraux. Je crois qu'en ce moment, bon, les syndicats font, en particulier la CGT, beaucoup pour aider à encadrer l'action revendicative et les propositions. Elle en fait des propositions sans arrêt. Et j'en ai là beaucoup d'exemples, même sur la sécurité sociale. Mais je ne suis pas sûr, comme on le disait, qu'elles soient bien comprises comme des propositions utiles. Il y a un projet en haut lieu qui est un projet ultralibéral, de toute manière. Et la volonté, c'est de passer en force. Ces grandes entreprises savent... de toute façon, les lois antérieures leur ont permis, hein, liberté de circulation des capitaux, etc. Tout cela est en place depuis longtemps. Nous avons maintenant, il ne faut pas dire, la crise mondiale, on n'y est pour rien. Les droites ont toutes voulu ce système. Les lois européennes ont préparé, et les gens qui aujourd'hui crient aux orfraies, lèvent les bras au ciel, sont ceux qui ont préparé cette crise. Toutes les directives européennes qui ont libéralisé, cassé le droit du travail, je pourrais montrer sur notre sujet que on prépare la marchandisation de tous les services. Il y a une liste à Bruxelles. Ils les passent une après l'autre. Et à ce moment, ce sont les services sociaux.
Alors on va pas déflorer.
Donc ce que je veux dire pour finir,
il faudrait
c'est
d'ailleurs qu'on garde du temps pour
les
lui.
Les lois, elles peuvent évoluer. Je rappellerai la loi de modernisation sociale que la droite a, la première loi qu'elle a barrée d'un trait de plume en arrivant au pouvoir, c'était sous Chirac. C'est la loi de modernisation sociale. Il y avait là des réponses. On a besoin de pouvoirs nouveaux, de contrôle des salariés, d'intervention. Ça n'existerait pas tout cela avec la loi de modernisation sociale. Il faut prendre les gens et les salariés pour des gens majeurs, hein, au lieu on les prend pour des demeurés. On ne leur fait pas confiance. Les salariés sont, il faut les, si vous voulez, les propositions qui viennent de ce genre, elles ont toujours fait peur. Et c'est pourquoi cette loi a été supprimée. Il y avait des réponses.
Alors, elles ont fait peur parce qu'elles n'existent nulle part au monde. Par exemple, la loi qui prévoyait
l'interdiction de
licencier, bien sûr, ça peut paraître séduisant, mais ça n'existe nulle part. Et si vous la mettez en route, les entreprises fuiront la France. Et puis voilà. Je veux dire, il faut tout ça.
Elle fuit sans ça.
Tout ça, mais elle fuira encore davantage. Il n'y en aura aucune qui viendra. Et puis, il y a quand même, vous avez dit c'est la droite, mais la plupart de ces lois européennes, elles ont été approuvées aussi bien par des gouvernements de droite que de gauche, vous le savez très bien. Et bien sûr que, bien sûr que oui, la gauche a été longtemps au pouvoir
les directives européennes sur le droit du travail, ça n'a rien à voir avec les gouvernements de gauche européens. On sait qu'aujourd'hui c'est à la tête des commissions européennes et des organes qui décident.
Il y a quand même un certain nombre de gouvernements à gauche en Europe.
Il faut dire socialiste alors.
Oui, socialiste. C'est pas à gauche.
Si, non, si, mais
c'est très bien, monsieur Lacroix sera très, très heureux d'entendre
faire
ça.
Une différence.
Bon, non, c'est pas l'ordre du gouvernement. Socialiste, on ne sait pas, c'est à gauche, à droite.
Non, mais la question voilà. n'est pas là, monsieur Roth. Bon, vous savez bien que nous sommes les inventeurs de droit du travail, des droits du comité d'entreprise.
Oui.
Donc,
il y a de vraies gauches que les communistes.
Bon. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des lois de toutes sortes. Il y a des lois qui ont été même partagées avec la droite. Avec De Gaulle, nous avons créé la Constitution qui est née en 1946. Bon, mais vous voyez bien, l'histoire évolue.
Bien
sûr. Il ne faut pas généraliser.
Absolument pas. Non, mais pour en revenir au rôle des syndicats, ils sont affrontés eux aussi à une crise sans précédent. Et dans une crise importante comme cela, tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, sont quelque part un peu dépassés. Et c'est le propre d'une crise mondiale qui fait que les barrières ordinaires sortent. Et on a connu ça dans d'autres périodes.
Vous êtes en train de reprendre les propos de M. Dupin, là, quasiment. Un peu
non,
chose
mais et je dis qu'il y a une crise qui fait, je ne sais pas si on est en situation pré-révolutionnaire, je ne le pense pas. Bon, je pense que De Villepin avait, il y avait des raisons plus politiques dans son propos. Mais il y a une tension sociale importante qu'on a déjà connue dans notre pays parce que ces séquestrations de patrons, on en avait, perdu un peu le souvenir, mais ça a existé il y a quelques années en France. C'est pas absolument.
Sauf que le silence des responsables aujourd'hui fait que le mouvement se radicalise. Pourquoi on a attendu 2 ans après l'élection de Nicolas Sarkozy pour avoir un plan de relance? 2 ans après, il a fallu qu'il y ait une manifestation en janvier, qu'on soit des millions dans la rue, pour qu'en février, on ait un plan de relance.
Écoutez,
maintenant,
monsieur,
on parle d'un plan d'urgence pour
les jeunes. J'aurais pas la cruauté de vous faire traverser les Pyrénées. De vous rappeler que de l'autre côté des Pyrénées, il y a un gouvernement socialiste avec Monsieur Zapatero et que la situation espagnole est infiniment plus grave que la situation française.
On ne peut pas les comparer.
Mais
on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable.
C'est tout à fait comparable.
Pourquoi
ils affrontent la crise au même moment, à la même période. Le gouvernement socialiste est en place depuis de nombreuses années. On voit un petit peu la situation espagnole.
Je ne dis pas que c'est
vrai
en Espagne, sauf que ce n'est pas comparable.
En Espagne,
on peut parler des chiffres du chômage en France aussi.
Oui, mais on peut en parler. Parlons-en. Il y a 60 millions d'habitants en France. Il y en a 40 en Espagne, et il y a plus de chômeurs en Espagne qu'en France. L'Espagne vient de dépasser les 4 millions de chômeurs.
Si on veut être honnête, le chômage qu'il y a aujourd'hui en Espagne, c'est lié aussi à la flambée de l'immobilier, donc c'est pas comparable à ce qu'on a aujourd'hui en France.
Vous savez, pour le chômeur, vous allez lui expliquer que c'est lié à la flambée. Il y a 4 millions de chômeurs en Espagne, beaucoup plus qu'en France, alors qu'il y a moins d'Espagnols que de Français. Je m'en réjouis pas, mais je veux dire, vous pouvez pas dire c'est la faute de la droite, vous comprenez.
Il faut
se mettre à une autre hauteur.
Il n'y a pas le bien et le mal. Il y a des responsabilités.
Il n'y
a pas de fatalité.
Oui, voilà. Donc les socialistes, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Les socialistes ne sont pas tout à fait à gauche. Voilà.
Non, mais je ne joue pas avec les mots. Je pense que c'est beaucoup plus grave et que les choix actuels montrent déjà qu'ils n'ont aucune efficacité. Et que donc, malheureusement, je crois que la crise va s'aggraver parce que les mesures qui sont prises actuellement continue à alimenter le circuit de l'argent, et absolument ni les salaires, ni l'emploi. On continue d'ailleurs, vous le savez, le premier employeur de France un emploi sur deux, départ à retraite, c'est l'État. Et ça continue.
Alors, habituellement, le deuxième sujet est là pour nous occuper, mais en même temps, on a été rattrapé par l'actualité. C'est pourquoi je voudrais quand même qu'on traite du deuxième sujet. Je me demandais si, le fond de ma question, en m'interrogeant sur le coût de la sécurité sociale, parce qu'au moment où j'ai rédigé le sujet, on nous parlait du nouveau déficit de la sécurité sociale, etc. Et d'aucuns indiquaient que l'État ne payait pas les exonérations qu'il donnait si généreusement. Et par ailleurs, moi, je me suis toujours demandé demander si, parce que c'était particulièrement bien remboursé d'une certaine manière en France, la maladie, si ceux qui distribuaient, qui fabriquaient les remèdes, qui distribuaient les services, si tout le monde n'en profitait pas. Moi, j'ai toujours été frappé par le fait que une médication anti-sida pour un mois, ça coûte 1000 euros. Et je me suis toujours demandé, au fond, pourquoi il la facture pas 3000, parce qu'on les paierait aussi, les 3000. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une raison que ça s'arrête, et est-ce que tous les contrôles sont institués? Et puis maintenant, on a été rejoint par l'actualité, puisqu'on a cette loi sur l'hôpital, qui a provoqué une manifestation relativement importante, et avec, dans la manifestation, un député de l'UMP, le professeur Debré, qui est assez critique. Alors, sur ma première réflexion, sur au fond, puisque si on est en déficit, ben on augmente la CSG, on augmente les cotisations, est-ce que il n'y a pas lieu de quand même contrôler d'un peu plus près non pas les dépenses de santé, mais le coût de ces dépenses? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui profitent un peu de la situation, monsieur Lacroix?
Dans tout système, on peut trouver des personnes qui profitent des systèmes publics et notamment dans la santé. Bien sûr qu'il y a des contrôles. Après, dans quelles conditions exercer tout ça, ça c'est, on va dire, c'est plus dans le technique. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, bien sûr, il y a déficit de la sécurité sociale. Sauf qu'il y en a certains, bien sûr, qui profitent du système. Notamment, pas peur de le dire, hein, il y a des lobbies pharmaceutiques qui sont énormes et qui jouent sur des remboursements, sur les médicaments génériques. Donc tout ça, il y a une économie parallèle de la santé qu'on connaît depuis longtemps. Sur la sécurité sociale, il y a des abus qui fait que d'un côté il y en a certains qui prennent, de l'autre côté il y a certaines personnes qui ont du mal pour se soigner, même si, encore heureux, en France on est mieux loti que dans notre pays. Alors peut-être il faut réfléchir à de nouveaux contrôles s'ils sont pas suffisants, qu'on traque beaucoup plus les abus au niveau des personnes qui ordonnent les médicamentations, au niveau des systèmes laboratoires qui essaient de profiter du système, qui fait qu'aujourd'hui on a certains médicaments thérapeutiques qui coûtent très cher. Vous parlez du sida, mais il y en a beaucoup d'autres et qui sont de plus en plus lourds pour les malades. Alors bien sûr que moi, si on investit, si on met des moyens humains publics pour contrôler les dépenses, moi j'y adhère à 100%.
Monsieur Andréotti, puisqu'on a pris un ordre ce soir, presque, qui ne tient qu'à vous de bouleverser, d'ailleurs, messieurs.
Non, mais je m'accommode de toutes vos propositions. Ce que je remarque, bon, c'est la question de l'efficacité de la gestion des dépenses. Bon, pour répondre à cette question, il est vrai qu'il y a des abus, mais qui en profitent, ils sont quand même assez marginaux. J'allais dire le principal coût, si je me base sur l'esprit des fondateurs de la sécurité sociale, et c'était un système à l'époque unique au monde et qu'on peut qualifier d'innovation sociale. Jamais une société n'avait prescrit d'assurer la sécurité et la santé comme nous l'avons fait en France à la Libération. Il faut se rappeler quand même, parce que le devoir de mémoire, il est là aussi. Et quand il a été instauré, c'était dans une France ruinée, on ne se posait pas ces questions et on l'avait édifié. Donc il y a beaucoup de problèmes qui résultent certainement d'un ensemble de facteurs. Ce que je veux dire, oui, les dépenses, qu'on peut les contrôler, certainement, des dépenses indues, des abus, oui, certainement. Personne ne peut le contester. Et comme on le dit, c'est difficilement évitable. Maintenant qu'on puisse faire en sorte de le réduire, oui. Maintenant, le vrai problème, quel est le problème de la sécurité sociale, ou de la manière d'avoir des dépenses qui soient compatibles non seulement avec l'économie et les besoins, c'est de regarder un peu l'ensemble des facteurs de dépenses et de coûts. Je vous ferai quand même un rappel. Quand Sanofi et Aventis se sont mariés, groupe qui n'a créé aucune molécule nouvelle depuis, ni qui n'avait pas ce projet, ce montage financier, ça a coûté l'équivalent du déficit de la Sécu sur un an. Pourquoi faire ? La question est posée. Donc ça, ça
dépend. Et comment ça a coûté ce...
Ça a coûté ce montage financier. C'est ce que ça leur a coûté à ces groupes, ce groupe, pour se constituer dans une unité nouvelle. Alors, évidemment, on pourrait, je pourrais simplement évoquer que c'est une goutte d'eau, ces dépenses, par rapport à ce que coûte le chômage et les bas salaires à la Sécu. Voilà, parce que, il faut quand même le rappeler. C'est essentiellement ce problème, le financement de la Sécu. On pourrait évidemment imaginer de taxer davantage les... Nous avons toute une série de propositions, ce sujet, je ne vais pas les énumérer, mais c'est vrai qu'on peut mieux le contrôler, on peut être sans doute plus vigilant, et on peut rendre à la Sécurité sociale un financement qui lui assure et une pérennité. Je voudrais terminer sur cette petite intervention en rappelant que la Sécurité sociale avait une gestion paritaire dans l'esprit des fondateurs, et qu'il y a plus de 20 ans qu'on a empêché le renouvellement et des élections à la direction de la Sécu. C'est quand même une revendication, notamment de la CGT. Et là, ça pose un vrai problème. Parce que est-ce qu'on ne veut plus de ce système de paritaire qui est démocratique et qui assure une véritable cohésion et des choix concertés? Est-ce qu'on n'en veut plus? La question reste posée.
Mais j'avoue que je me suis toujours demandé pourquoi il y avait une espèce de conseil d'administration et puis que c'était quand même le Parlement qui votait le taux des cotisations. Alors, ça me paraît un peu bien. Docteur Rock, cette fois-ci, on peut dire Docteur Rock.
Oui. Non, mais la sécurité sociale, c'est un bien commun aux Français auquel ils sont légitimement très attachés. Et on sait très bien que dans les années à venir, le coût de la santé ne peut que monter. Parce qu'il y a le vieillissement de la population, parce qu'on soigne de plus en plus de choses, parce que c'est de plus en plus technique, que ça coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus compliqué. Bref, tout concourt à la dépense exponentielle des dépenses de santé. Et pourtant, il faut pouvoir les assurer, parce que quand vous êtes malade, quand vous êtes au fond d'un lit d'hôpital, vous ne vous demandez pas combien ça coûte. Vous vous demandez, est-ce que je vais guérir, est-ce que je ne vais pas guérir, et chaque malade veut légitimement qu'on fasse le plus pour lui. Et c'est ce qu'on voudra, nous, quand on sera malade. Donc, c'est le devoir d'un État de faire en sorte que ce soit possible. Et c'est de ce point de vue-là que la chasse au gaspille est très importante, parce que tout l'argent qui part là où il ne devrait pas aller, c'est autant en moins et qui va là où il devrait aller. Donc, les efforts qui sont faits pour chasser les abus, et la Sécurité sociale, ces dernières années, a obtenu des résultats qu'elle n'avait pas obtenus jusque-là. Elle a récupéré des fonds importants, qui se chiffrent quand même à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est également pourquoi on a développé les médicaments génériques, qui ont été développés depuis quelques années, sous la droite, qui ne plaisent pas naturellement au laboratoire, mais qui font économiser des sommes très importantes à la Sécurité sociale, et il faut continuer dans cette voie. Donc, la Sécurité sociale, il faut traquer les abus, mais il faut aussi, et ce que disait M. André Outy, il a raison, augmenter les recettes, lutter contre le chômage, parce que plus il y a du chômage, plus il y a un problème économique, et plus les recettes de la Sécurité sociale diminuent, et plus le déficit diminue. On arrivera à rétablir l'équilibre de la Sécurité sociale qu'en luttant sur tous les côtés. Il faut diminuer les dépenses.
Est-ce que la loi sur l'hospitalisation publique, est-ce que c'est destiné, ça fait partie de ces améliorations ou pas?
Absolument, ça fait partie d'une tentative de meilleure gestion de l'hôpital. Vous savez, moi j'ai connu un trésorier de l'hôpital de Purpan, c'était déjà il y a de nombreuses années, qui me disait, je ne suis pas sûr que tous les gens que je paye travaillent à l'hôpital. Depuis, j'espère que ça s'est amélioré. Mais dans des machine aussi énorme où il y avait plusieurs milliers de salariés, contrôler tout ça, gérer tout ça, c'est pas facile. Et on sait bien qu'il y a eu des abus et qu'il y en a encore, et qu'il faut les maîtriser, parce que c'est l'intérêt du malade. Tout l'argent qui est détourné d'une certaine façon, eh bien, c'est de l'argent à moins pour les soins. Mais ça suffira pas. C'est pas la seule mesure qu'il faut prendre, mais c'est une mesure importante. Et dans la loi qui est votée au Parlement, il y a aussi, vous savez, dans un pilote, dans un avion, s'il n'y a pas de pilote, il y a un problème. Et dans les hôpitaux, eh bien, il manquait une direction forte. Vous savez, moi, je suis médecin, donc j'ai connu. Vous savez, il y a toujours une dualité dans les hôpitaux entre le pouvoir médical et le pouvoir administratif. J'ai connu ça et il m'est arrivé de pas être d'accord avec la direction hospitalière sur tel ou tel problème. Mais moi, je crois que il faut que chacun fasse ce pour quoi il est fait. Moi, pendant des années, j'étais dans les hôpitaux et je rêvais que d'une chose, c'est de pouvoir faire de la médecine, de pouvoir m'occuper de mes malades et qu'on ne me mette pas sur le dos tout ce qui était administratif, tout ce qui était gestion. J'estime que ça, c'est le
administratif et gestion, c'est pas tout à fait pareil.
Oui, mais il y a beaucoup de c'est quand même, vous savez, le travail d'un médecin, c'est très compliqué. C'est très difficile. C'est un des métiers les plus difficiles au monde. C'est un des métiers où il y a le plus de responsabilités. Et il faut que le médecin ait l'esprit tranquille. Il faut pas qu'il perde la moitié de son temps à siéger dans telle ou telle commission, à aller pleurer à la direction pour avoir tel ou tel matériel. Il faut que la direction hospitalière soit le dégage, je dirais, de tout ce qui est souci matériel pour qu'il puisse vraiment se consacrer et se consacrer malade. Et les hôpitaux qui marchent bien. Les hôpitaux qui fonctionnent bien, il y en a quand même, heureusement. Et la France, d'ailleurs, est un des pays où les hôpitaux fonctionnent le mieux. Eh bien, ce sont les hôpitaux où il y a une bonne entente entre la direction et les médecins. Quand vous avez cette entente, je vous assure que ça marche très bien et que l'un renforce l'autre. Les directeurs ont besoin de médecins qui font leur travail, qui sont accrochés à leur raison d'être, soigner le malade. Et les médecins ont besoin d'une direction qui gère bien l'hôpital et qui leur assure les fonds nécessaires.
Et quand le président du conseil d'administration est médecin lui-même, ça aide? Parce que si je ne me trompe pas, le maire est président du conseil d'administration.
Absolument, il y a un certain nombre de maires qui sont médecins et je pense que ça aide un peu, j'ose l'espérer.
Monsieur Lacroix.
Alors, juste une chose sur laquelle je suis d'accord. Bien sûr, il faut essayer d'alléger les charges administratives sur les soignants, quels qu'ils soient. Donc, que les médecins, que les infirmières, que les soignants soient là, essentiellement, ils consacrent la plupart de leur temps à leur activité de soignant, c'est bien normal. Après, la nuance entre pouvoir, il y a l'administratif d'une entreprise, sauf dans l'hôpital, justement, j'ai dit le mot. Aujourd'hui, le problème, c'est que on va au-delà de la chasse au gaspille et de ce qui est de réduire les coûts d'un service public. À mon avis, le passage a été la tarification à l'acte dans les hôpitaux, où on demande maintenant, et c'est aggravé avec la loi patient santé territoire, à l'hôpital d'être géré comme une entreprise. Sauf que,
c'est un slogan, mais c'est pas la vérité.
Non, c'est pas un slogan.
C'est pas la vérité.
Aujourd'hui, on compte les patients, on chiffre.
C'est ce que dit un professeur de médecine à l'hôpital.
L'appel des 25.
Ouais, c'est pas la vérité. Les médecins n'y soient toujours la vérité.
L'appel des fameux 25 grands médecins qu'il y a eu la semaine dernière où il y a quelques
jours. Ça, c'est un problème de pouvoir. Ils ont peur de perdre le pouvoir. C'est ça, la vérité.
Non.
C'est un pouvoir de mandarin. Vous savez que le pouvoir médical et les mandarins dans les grands centres hospitaliers, c'est quelque chose. C'est parfois d'ailleurs on a des familles, enfin, on pourrait s'interroger
mais
aussi la façon dont ça fonctionne.
Ils ont peur de perdre
du pouvoir. C'est le problème des CHU qui est un problème différent de ce qu'on peut trouver nous dans les hôpitaux, je dirais généraux de province, où il y a quand même moins de lutte entre le pouvoir médical et le pouvoir administratif. Mais
quand on parle de rentabilité d'arrêt
de droit divin, certains ont peur de perdre un peu de pouvoir. Alors bien sûr, c'est pas ce qu'ils disent. Mais qu'un hôpital soit et un budget en fonction de son activité. Ça peut paraître quand même normal.
Il y a une question qui me brûle les lèvres. Parce que, oui, apparemment, on paierait à l'hôpital les actes qu'il fait. Il y a qu'un ennui, c'est que quand moi je vais à l'hôpital, je ne sais jamais quels actes sont faits. Et je me demande bien, s'il facture à l'acte, je me demande bien qui contrôle les actes qui sont facturés. Parce qu'à la limite, c'est encore mieux que quand ils facturaient pas les actes. Ils peuvent en compter le double, le triple, le quintuple. Et je ne vois pas qui pourra le savoir.
Non, mais vous savez, il y a des services pour ça. Des services de PMSI qui sont chargés de relever et toute l'activité médicale et tous les actes qui sont faits. Et ce que vous dites là, si ça existait, ce serait des actes parfaitement malhonnêtes. Les services, il y a des médecins qui sont chargés de ça, les médecins des services de PMSI qui sont chargés de relever tous ces actes, de les coter, de telle sorte que l'hôpital reçoive des fonds de la sécurité sociale en fonction de son activité. Parce que moi, j'ai connu l'époque où il y avait le budget global. Alors, je ne sais pas si vous voulez revenir au budget global. Le budget global,
oui, je voulais juste parler.
Oui, que si vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous avez la même enveloppe.
Un petit exemple, oui. La tarification à l'acte, qui est dénoncée par l'ensemble maintenant des personnels, la grande majorité de personnel hospitalier, je vais vous donner qu'un seul exemple. Depuis qu'elle est appliquée, centre hospitalier de Marseille, le déficit n'a fait que croître. Ensuite, deuxième point.
Ça veut dire qu'on leur paie pas tous leurs actes, alors?
Ah, mais ça, c'est un autre, c'est assez compliqué à expliquer, en fait, hein, en quelques secondes.
Il y a des actes qui coûtent cher. Quelqu'un qui est atteint de la maladie du sida, il va coûter cher.
Le fait est là. La solution, ça n'est pas une. Par contre, moi, je vois une convergence étroite. Vous savez très bien, et je vais pas être très long, je vais essayer d'être le plus court possible. Vous savez très bien qu'on peut maintenant nommer cette loi, hein, ARS. C'est-à-dire qui va permettre, la nouvelle loi, qui va permettre à ce qu'un directeur d'hôpital puisse ne pas connaître la médecine ni être un personnel issu de... Elle a une profonde logique, on va y mettre un comptable.
C'est des financiers.
On va y mettre des comptables, le plus souvent des financiers. Par contre, moi je vois une grande logique et je vais faire court. C'est en parfaite cohérence avec la déréglementation qui s'opère au niveau européen, directive, qui va faire passer les actes de soins de remboursement d'une rubrique à l'autre. Elles vont passer dans le marché intérieur, alors qu'elles étaient jusqu'ici régies par la coordination article 152 des systèmes de santé
sociaux. Là, on n'a rien compris.
C'est un texte qui, au niveau européen, est en train de se préparer. La directive sur les soins transfrontaliers qui a été adoptée, c'est-à-dire qu'on puisse rembourser d'un pays à l'autre les soins qui ont été effectués dans tous les pays de la communauté. Ça, sur ce principe, c'est formidable, c'est très bien. Sauf qu'on a fait passer, par la même occasion, avec ce bébé, autre chose. C'est-à-dire que ça ne relèvera plus des systèmes sociaux de santé, cette juridiction, la nouvelle, mais du marché intérieur. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer le passage de la santé dans le système du commerce, comme dans toutes les autres marchandises. Et c'est en parfaite cohérence, c'est ce qui est en train de se faire.
Je crois que ça, c'est une caricature, c'est pas...
Absolument pas, c'est clair.
C'est pas ça, il faut... Que voulez-vous? Est-ce que vous voulez que les hôpitaux fonctionnent comme autrefois au forfait, budget global? Ce qui veut dire, c'était une prime à ceux qui travaillaient le moins. D'ailleurs, moi, je me souviens, j'ai connu cette époque aussi. On nous disait, surtout, ne faites pas de radio, surtout, ne consommez pas de médicaments, surtout, gardez les malades, gardez-les un mois. On est payé à la journée. C'était la prime à celui qui travaillait le moins. C'était ça, le budget global. Parce que quand vous travaillez, vous coûtez cher. Quand vous ne travaillez pas, vous ne coûtez pas cher. Et l'hôpital était payé de la même manière. Donc, vous savez, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Hein. Il est bien normal qu'un hôpital reçoive en fonction de son activité. En sachant que c'est une partie, parce que c'est ce qu'on ne dit jamais, c'est une partie de son budget. Ce n'est pas la totalité du budget. Ça, c'est la partie du budget de l'activité. Et puis, il y a ensuite les œuvres d'intérêt généraux, les urgences, les personnes âgées, et qui sont payées d'une autre façon. Voilà.
Et maintenant, il nous reste à dire à nos auditeurs qu'on les retrouve dans un mois avec Table Ovale, animée par Claude Deheuzin, avec les représentants locaux des partis politiques nationaux. Merci, messieurs.
Merci.